rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Bonjour à tous, bienvenue pour cette seconde édition du rendez-vous série des bibliothèques. Parce que nous aimons les séries, parce que nous aimons en parler et que nous aimons vous aider à choisir parmi l'offre abondante de séries grâce à notre sélection très éclectique. Au programme aujourd'hui, beaucoup de séries anglo-saxonnes, américaines et une coréenne. Antoine va nous parler de The Duchess que nous avons en DVD, Nathalie Kingdom. Yann va nous parler de Oz et de Sex Education. Ennis nous présentera Normal People et La Roue du Temps. Aurore, la référence Lincoln et Obi-Wan. Et pour ma part, je vous parlerai de Succession et de The Boys. Je vais d'ailleurs commencer par Succession avec la musique que vous allez écouter tout de suite, un titre de Nicolas Britell, et c'est la musique du générique. Succession, qui a été créée en 2018 par Jesse Armstrong pour HBO, elle a été récompensée aux Golden Globes et aux Emmy Awards. Elle nous propose une plongée vertigineuse au sein du clan Roy, une famille à la tête d'un empire médiatique où tout est question de pouvoir. Les quatre enfants se déchirent pour prendre la suite du paternel Logan Roy, PDG de Westar Royco, un conglomérat de sociétés dans les domaines des médias et du tourisme. Dit comme ça, on pourrait se croire dans un succès d'année de Dallas. Et c'est ça, mais en mille fois plus intelligent et subtil. L'ambiance familiale s'apparente à celle des Atrides dans le royaume des affaires, d'autant que le patriarche s'amuse à mettre en compétition tous les prétendants à sa succession. Si Kendall semble le mieux placé pour lui succéder, rien n'est joué. Chaque personnage est truculent et plus ou moins névrosé, arrogant et déconnecté de la réalité. La force de la série tient dans la peinture des rapports humains dans ce monde ultra-riche où caviar et champagne coulent à flot et où on prend l'hélico pour aller jouer au baseball en famille. On découvre leur monde hermétique aux problèmes prosaïques, qui s'accrochent à ces privilèges et sont souvent détestables, ignobles, même si on finit par excuser leur comportement en comprenant l'enfance sans affection qu'ils ont eue. Ils peuvent même devenir attendrissants, et c'est un des points délectables de la série. Elle joue perpétuellement avec nos émotions, et on savoure les mésaventures de ces milliardaires, comment ils essuient les coups bas et les trahisons sur fond de décors de luxe. C'est caustique, savoureux, et pourtant, on a un réalisme froid, voire glaçant. On est très loin du côté divertissant associé au soap, et on navigue en permanence entre drame cruel et comédie à l'humour grinçant. Le réalisateur parle d'ailleurs de dramédie. Et ce qui nous captive aussi, c'est que la série illustre l'Amérique et son rêve de toute puissance, à coup de manipulation de l'info et de désir de monopole. C'est en même temps une plongée dans les arcanes de la politique et des médias américains. Les liens entre politique, argent et médias sont bien représentés par le personnage de Shiv, la fille unique de Logan. Elle était conseillère stratégique au Sénat américain. On y découvre une manière particulière de diriger une chaîne d'information en continu, un monde âpre où la rentabilité prime. On n'a pas ici le point de vue éditorial comme dans d'autres séries, mais celui du business avec ceux qui possèdent les médias et où les questions d'alliance, de fusion, de rachat. Et si Succession plaît autant, c'est en partie grâce à sa vraisemblance. La série est très largement inspirée de personnages réels. Et surtout le patriarche, colérique et vieillissant, a clairement pour modèle Rupert Murdoch. Et aussi, la vraisemblance, elle est acquise grâce au choix d'une réalisation proche du documentaire. On trouve d'ailleurs parmi les réalisateurs et producteurs exécutifs Adam McKay, le réalisateur de The Big Short et The Vice, qu'on avait adoré. C'est un conte sombre des temps modernes, à relire, revisité, au dialogue impitoyable, et en même temps assez théâtral dans la structure des épisodes, qui repose sur un processus répétitif destiné à ridiculiser ses personnages. Succession est une satire impertinente, sans concession, qui va au bout des choses. C'est un jeu de massacre où personne ne sort indemne, mais où, contrairement à Game of Thrones, la violence n'est pas physique, mais psychologique. Les spectateurs, nous sommes autant fascinés que dégoûtés pour notre plus grand plaisir. Nous allons enchaîner avec une autre série américaine que nous avons en DVD à la bibliothèque, The Duchess, dont voici un extrait du générique de la deuxième saison, This Year's Girl, chanté par Elvis Costello. You
Alors, je vais vous parler maintenant de The Deuce. Alors, je crois que ça se prononce comme ça, même si ça s'écrit D-E-U-C-E. Et c'est un mot qui désigne le diable, mais qui est aussi le surnom de la 42e rue de New York, le quartier où se passe la série. La série nous parle du monde de la mafia américaine, mais contrairement à ce dont on a l'habitude, elle ne nous parle pas des années 20, elle nous parle des années 70-80. Elle ne nous parle pas de la prohibition de l'alcool, mais de la prohibition et finalement de la légalisation de l'industrie pornographique et des cinémas pornographiques. Et la porte d'entrée vers tout ça, c'est un barman et une prostituée qui essaient de s'en sortir, de survivre un peu dans ce monde-là. Alors c'est une série HBO qui a été diffusée aux États-Unis entre 2017 et 2019 et qu'on a en DVD à la bibliothèque Saint-Corneille. Il y a trois choses que j'ai beaucoup aimées dans cette série. Le premier, c'est que ça m'a un peu rappelé Pretty Woman. Alors j'avais vu ça quand j'étais petit ou que j'étais ado, Pretty Woman. Et en fait, c'est à la fois on est sur le même thème, c'est-à-dire les rues américaines, les prostituées, les proxénètes, les clients, etc. Mais évidemment de manière extrêmement différente. Déjà parce que celui qui a écrit cette série, The Deuce, c'est l'auteur du livre qui avait inspiré la série The Wire. Si vous avez vu cette série, vous savez que c'est subtil, c'est compliqué, c'est des personnages extrêmement riches. Alors, on est, par rapport à Pretty Woman, on est dans les... Pretty Woman, c'est 1990, donc là, on est juste un peu avant, dans les années 70-80, et on n'est pas du tout sur un scénario de conte de fées, on est sur quelque chose de très très différent, un scénario assez complexe, et puis une galerie de personnages qui est, si vous voulez, menée par Maggie Gyllenhaal et James Franco. Alors, c'est pas Julia Roberts, c'est pas Richard Gere, mais c'est des acteurs absolument incroyables. Et puis, il y a la qualité qu'ont beaucoup de séries de notre époque, c'est-à-dire vous n'avez pas vraiment de personnages secondaires. Les personnages secondaires, ils sont jamais secondaires. Ils sont pas là juste pour faire rire, pour apporter un comique ou venir dans un événement. C'est des vrais personnages avec une richesse psychologique, des lignes de dialogue ciselées au bisturi. Et moi, un des personnages que j'aime beaucoup, c'est un des deux jumeaux qui essaie de s'en sortir. Donc le barman qui essaie toujours de s'en sortir la tête haute alors qu'il a la mafia sur le dos. Il a sa femme, il a sa belle-mère, On a toujours l'impression que personne lui vient en aide. Et puis finalement, il trace son chemin, il arrive à survivre. Et tous les personnages sont un peu comme ça. Alors, je ne vous dis pas, évidemment, les rebondissements et ce qui se passe dans la suite. Mais on est dans une sorte de faisceau de personnages qui tracent leur chemin dans les rues de New York et qui réussissent finalement à exister dans ce milieu-là. Et puis, la troisième raison qui fait que j'ai bien aimé, c'est que c'est pas du tout ma zone de confort. Moi, je regarde plutôt de la science-fiction, de la fantasy, des choses comme ça. Et c'est mes collègues qui m'ont conseillé The Deuce. Et en fait, j'ai adoré parce que, en fait, ça se regarde quasiment comme un documentaire. C'est extrêmement précis, c'est extrêmement bien montré. Le quotidien des prostituées, des proxénètes, des barman, mais aussi des policiers. Et c'est vraiment toute la richesse des séries actuelles avec un thème qui finalement peut paraître assez, pas banal, mais en tout cas c'est un thème qu'on a déjà vu, mais qui est vraiment magnifié par l'écriture de David Simon. Et maintenant, avant que Nathalie nous parle de Kingdom, on va écouter un extrait de la bande-annonce de Kingdom.
Combien y a-t-il de cadavres dans cet étang, à ton avis ? Qu'il y en ait une dizaine ou une centaine, ou encore qu'il y ait des témoins, peu importe. Tu peux me croire, il n'y a absolument personne qui parlera. Voilà à quoi sert le pouvoir.
J'ai vu une sorte de monstre hideux errer dans le palais du roi. Puis-je savoir où se trouve mon père ? Je dois rencontrer le docteur Sung Willy pour savoir ce qui est arrivé à mon père.
Un grand malheur s'est produit ici. Qu'est-il arrivé à tous ces gens ?
Les morts sont revenus à la vie, mais ils sont devenus des monstres. Ils vont bientôt se réveiller. Attention ! Monsieur !
Si Sangzhou tombe, la maladie se répandra dans tout le pays. Nous devons agir.
Et le prince héritier, alors ?
Je les anéantirai tous. Tous.
vengeance jusqu'au dernier.
Combattre et vaincre ces démons est le seul moyen de rétablir la justice.
Kingdom est une série télévisée américano-sud-coréenne écrite par Kim Eun-hee et réalisée par Kim Seong-hoon et qui est diffusée depuis le 25 janvier 2019 sur Netflix. Il s'agit d'une série historique et horrifique de grande qualité. Elle est inspirée d'un manga d'horreur japonais intitulé The Kingdom of the Gods. La série nous plonge dans la Corée du début du XVIIe siècle, après les invasions japonaises, dans un royaume rongé par la corruption et la famine, où un mystérieux fléau se propage. En fait, les morts se transforment en monstres qui s'apparentent à des zombies. Il ne s'agit pas pour autant d'une énième série de zombies, car le vrai propos se trouve ailleurs. Comme vous l'avez entendu dans l'extrait de la bande-annonce, on assiste davantage à des luttes de pouvoir entre des clans ennemis au sommet du royaume. On est en fait au moment où la question de la succession au trône se pose, car d'étranges rumeurs évoquent la maladie du roi. Ainsi, l'épidémie zombie est plutôt un élément perturbateur qui est utilisé par le créateur de la série pour évoquer le fonctionnement absurde, voire franchement pervers, de l'appareil d'État, qui est en fait incapable de saisir les enjeux jusqu'à mettre en péril l'intégrité du pays. On suit tout au long de la série le héros, qui est en fait le prince héritier, mais accusé de trahison, qui est poursuivi, mais qui est prêt à tout pour sauver son peuple, qui est donc le héros, est tiraillé entre la nécessité de découvrir l'origine du mal qui ravage son pays et de défendre son droit à la succession au trône. La série est constituée de 2 saisons, de 6 épisodes chacune, de 50 minutes, et il y a un épisode spécial de 93 minutes qui raconte les origines de l'épidémie. Les acteurs sont très bons et montrent de belles nuances dans leur jeu. On s'attache rapidement aux personnages, ce qui ajoute du suspense quand on considère l'univers dangereux dans lequel ils évoluent. On suit notamment donc le prince héritier, son garde du corps, mais aussi le médecin qu'il rencontre assez tôt dans la série et qui est joué par l'actrice Donna Bay, que nous avons déjà pu voir dans le film Claude Atlas ou dans la série Sense8 des sœurs Wachowski. D'autre part, les antagonistes sont eux redoutables, que ce soit les humains qui sont très intelligents et machiavéliques, sans remords, ou alors les zombies qui se caractérisent par leur rapidité, qui les rend assez imprévisibles et très dangereux. J'ai relevé 2 qualités majeures en dehors de la qualité de l'intrigue et des acteurs. Il y a un travail très impressionnant de reconstitution de la Corée du XVIIe siècle. La série nous présente des décors grandioses et des personnages en costumes très particuliers, magnifiques et hauts en couleur. Les thématiques nous permettent également de découvrir la place de la religion et les notions de code d'honneur et de sacrifice qui fondent la société coréenne de l'époque. Par ailleurs, la réalisation est très soignée. Les montages des scènes d'action sont très clairs, très bien faits, et ça leur donne un caractère haletant. On a plusieurs types de scènes d'action, on a des attaques de zombies, on a des combats au sabre, des combats au fusil, et puis des grosses scènes de bataille également. Et on a aussi une variété dans les valeurs de plans. On a aussi beaucoup de travelling et des plans séquences très impressionnants. C'est donc une série que j'ai déjà vue 2 fois et que je regarderai une 3e fois avec grand plaisir, tant l'histoire est prenante, pleine de rebondissements avec des enjeux importants. Et les images sont magnifiques, la photographie est très belle, donc je vous la conseille vivement. On va passer à la série Oz maintenant, qui va être présentée par Yann. Mais d'abord, on va écouter un extrait de la musique du générique.
Bonjour à tous, je vais vous parler de Oz, une série fondatrice, une légende. Que dis-je une légende? Un mythe. Oz, c'est la série mère de la série au sens contemporain du terme. 7 saisons, 8 épisodes de 55 minutes par saison, à l'exception de la 4e qui en compte 16 d'épisodes. Le tout diffusé entre 97 et 2003 sur, bah oui, HBO, déjà lui. Série qui va permettre la création de toutes les grandes séries qu'on connaît, Six Feet Under, etc. Elle arrivera en France en 2002, fin 2002 sur M6. Le créateur de la série, Tom Fontana. Oz ose ne pas faire du sop, du réalisme, de l'ultra-réalisme. Celui qui fait saigner de partout et qui vous fait dire « ouais, ben, je suis content d'être dans mon canapé, là. Puis j'ai bien fait d'économiser mes points sur mon permis de conduire. Comme ça, même en cas de grosse amende, je suis à l'abri de la zonzon. Car là, ça vend vraiment pas du rêve. » Oz, surnom de la prison de haute sécurité de niveau 4, Oswald State Correctional Facility. En son sein, un projet, Emerald City, projet conduit par Tim McManus, qui pense que les détenus les plus endurcis ne peuvent se réintégrer qu'à condition d'avoir une certaine liberté de mouvement, des interactions entre eux, un suivi psy, des enseignements, un travail, etc. Bref, des droits et des devoirs. Léo Glynn, le directeur de la prison, n'y croit pas vraiment. Donc, affrontement. Première source de rififi. Mais Léo Glynn a des subventions du gouverneur, donc il entre dans les rouages des jeux politiques. Deuxième source de rififi. Quant au fils de l'ancien collègue de Glynn, mort pendant le service, qui veut faire comme papa, troisième source de rififi. Enfin, ses relations avec les prisonniers, lui qui symbolise l'autorité, quatrième source de rififi. Les prisonniers sont issus de toutes les communautés présentes aux États-Unis. Irlandais, noirs, latinos, musulmans, ariens, chrétiens, homosexuels, séropositifs, les autres. Cinquième source de rififi, à démultiplier par le nombre de prisonniers et les interactions qu'ils peuvent avoir entre eux. À cela s'ajoutent les problèmes apportés par les prisonniers de l'extérieur. Drogue, histoire entre gangs, relations amoureuses perturbées et perturbantes par la prison. Les histoires d'amour qui se créent en prison. Énième source de rififi. Oz tend le slip du rififi-mètre. Plus sérieusement, Oz s'ouvre avec l'arrivée à M-City, entre autres, de Tobias Beecher, un avocat en assurance, alcoolique, qui, ivre, renversa une petite fille qui meurt sur le coup. Oui, dans Oz, même les wasps vont en prison. Un gentil garçon apparemment, qui va découvrir le jour même la violence et l'horreur de l'ambiance carcérale. Viol, tatouage nazi imposé par son tuteur, chef des Ariens. On va le suivre dans son évolution. Chaque épisode s'ouvre sur le personnage de Augustus Hill dans le néant de l'obscurité, sur son fauteuil roulant. Souvent dans un cube de plexiglas qui correspond au symbole du système carcéral, de la cage. Là, il aborde une question de société, un paradoxe ou un personnage historique, un adage. Souvent, rien en rapport avec la vie carcérale à Oz. Et pourtant, son introduction, ses interventions pendant l'épisode et à la fin permettent de désancrer le spectateur de l'intrigue du dit épisode, d'être trop dans le ressenti. Ainsi, le regard extérieur permet de réfléchir, de critiquer ce milieu carcéral. Plus on avance dans la série, plus les références shakespeariennes sont présentes, via les topoi de l'amour, la violence, le pouvoir, la haine. Parfois très visible quand un projet de M consiste à mettre en scène un drame shakespearien. Parfois beaucoup plus implicitement, comme les rapports entre les personnages, le traitement de la thématique de la vengeance, par exemple. Ainsi, la complexité des scénarios, des personnages, des intrigues nous empêche d'avoir notre personnage et une idée arrêtée sur le milieu carcéral. Sauf si notre pensée de ce qui ne va pas dans le milieu carcéral soit la phrase cultissime d'une autre série culte de la fin des années 90 et début 2000. La vérité est ailleurs. Et maintenant, on va écouter California Sun de Black River Delta.
One thing I know. Success is all about momentum. In court, before you can win, you gotta believe you can win.
But what if you don't?
Then you better fake it till you make it.
The Lincoln lawyer, that what they call you?
Some do, yes.
Why?
They work out of my car.
But that's not why you're here. Jerry Vincent left you his practice, including the Trevor Elliott trial.
It's that guy who killed his wife and her boyfriend.
Allegedly.
You checked out well. High performing trial lawyer, much better than Jerry, until you went off the deep end.
You took off in the dead night.
Do you think Dad's okay?
I worry about him too, honey.
Want our family back.
Can we just take it one step at a time?
Oui, alors cette musique, en fait, est l'introduction pour la série The Lincoln Defense. En français, La Défense Lincoln, c'est une série Netflix sortie assez récemment, qui est la suite d'un film du même nom, sorti en 2011 pour sa part, et tiré comme souvent de la littérature. En l'occurrence, cet extrait de la série littéraire de Michael Connelly, The Lincoln Lawyer, l'avocat à la Lincoln en français, et du tome suivant également, Le Verdict de plomb. Parce que oui, la Lincoln, c'est une voiture, et notre avocat, Mickey Haller, lui, est connu pour n'avoir pas de bureau, mais travailler justement depuis sa voiture, sa Lincoln, avec chauffeur, évidemment. Au début de la série, on apprend tout de suite qu'il n'a pas bossé depuis au moins un an à cause de problèmes de santé. En fait, Mickey a été victime d'un accident de surf et son traitement l'a rendu accro. Il a dû donc partir en désintox. Forcément, ça n'attire pas trop les clients. Mais coup de poker pour cet avocat en berne, un de ses confrères est assassiné et lui lègue son cabinet. Parmi les affaires en cours, il y en a une très médiatisée qui pourrait le relancer s'il la gagne. Entre deux, on le voit exercer son talent auprès de clients de moindre importance et ça donne tout le charme au personnage qui côtoie encore de très près ses deux ex-femmes. Le cas traité et les profils des personnages sont très variés, ce qui étoffe bien cette série judiciaire et la rend, je dois dire, assez addictive. L'acteur d'ailleurs qui joue Mickey Haller le joue très bien, il a beaucoup de charme et on le sent aussi charmant avec ses ex-femmes qu'avec ses clients. Voilà, en tout cas, c'est une série que je vous conseille avec le film qui va avec de 2011, The Lincoln Defense. Je vais maintenant passer la parole à Amy, mais avant ça, on va écouter un extrait de la série Normal People.
Je vais vous présenter a été diffusé alors très récemment sur France 5 et d'ailleurs disponible en replay également. Et c'est une série donc très récente qui est l'adaptation du best-seller éponyme de Sally Rooney, un roman en anglais qui est d'ailleurs disponible à la bibliothèque Jacques Morichon. Et Sally Rooney est saluée depuis comme la Jane Austen du 21e siècle ou, pour le dire avec les mots du Times, la première grande romancière milléniale. Normal People est non seulement son deuxième roman, paru en 2018, mais surtout est devenu un best-seller mondial, avec en France déjà plus d'un million d'exemplaires vendus. La série ici est adaptée par la BBC et elle suit alors fidèlement la relation entre Connell et Marianne de leur adolescence au lycée jusqu'à l'âge adulte à l'université. Dans un lycée d'une petite ville de l'ouest de l'Irlande, Connell est un jeune garçon séduisant, sportif et apprécié de tous. Marianne, quant à elle, est une jeune fille solitaire, fière et intimidante, qui fait tout pour éviter les autres élèves et défier l'autorité de ses professeurs. Une étincelle naît entre les deux adolescents lorsque Connell vient chercher sa mère, Lorraine, qui travaille comme femme de ménage pour la famille de Marianne. Bien qu'issus de milieux complètement différents, Marianne et Connell sont deux adolescents irlandais qui créent un lien de plus en plus important alors qu'ils se font part de leur vie respective. Alors ne vous y trompez pas, ce n'est pas une comédie romantique à l'eau de rose. Au contraire, en fait, c'est une série qui traite de l'évolution de deux jeunes adultes en devenir, de leur construction respective, de leur quête d'identité, et qui ont comme point de convergence leur affection réciproque et inévitable. Portée par l'interprétation habitée de Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal, cette chronique fonctionne au charme, mais également, ce qui est plus rare pour les comédies romantiques, à l'intelligence et à la lucidité, explorant toute la complexité et la beauté du sentiment amoureux. C'est un couple dont les vies sont intimement liées l'une à l'autre. Ils partagent donc plus qu'une attraction physique. Ils s'écoutent, s'entraident, et leur mal-être s'atténue lorsqu'ils sont ensemble. Normal People raconte, elle aussi, un amour traversant les années, mais de l'autre côté du spectre. Il est question d'une love story naissante, de sa consolidation, de ses épreuves qui la rendent à la fois accessible et sensible. Sally Rooney, donc l'auteur, traite avec intelligence l'enjeu du féminisme contemporain, notamment la question de l'oppression patriarcale. D'ailleurs, Marianne et Connell, les deux personnages principaux, ont tous les deux un père absent. Connell ne connaît pas son père et Marianne a perdu le sien. L'auteur traite aussi de la question du consentement dans le cadre d'une relation intime. Et à ce sujet, l'équipe de réalisation de la série donc, a pu bénéficier, et cela n'est absolument pas le cas dans toutes les séries, du concours d'une coordinatrice d'intimité qui s'appelle Ita O'Brien pour la mise en scène des ébats de Marianne et de Connell. Son travail consiste à veiller à la sûreté physique et mentale des acteurs et des actrices au moment du tournage des scènes d'intimité. Et c'est pourquoi cette série s'incarne parfaitement dans l'ère MeToo. Alors, quelques précisions également. Un jeune adulte sur trois a vu la série en Irlande. On compte également plus d'un million d'abonnés sur Instagram pour les deux comédiens principaux qui étaient jusqu'alors inconnus. Il y a plus de 11% de demandes d'inscription au Trinity College de Dublin depuis la diffusion de la série. Et cette série a décroché récemment 3 nominations aux Emmy Awards américains et autant au British Academy Television Awards, qui récompense chaque année le meilleur de la télévision britannique, dont le titre de le trophée du meilleur acteur pour Paul Mescal. Et je voudrais vous partager aussi un passage important d'une interview donc, de l'auteur, qui, selon moi, résume assez bien la série, où elle précise donc, pour la chaîne Louisiana, en 2019, je pense que le mieux que je puisse faire, c'est d'observer comment la classe, entendue au sens large de structure sociale, a un impact sur nos vies personnelles et intimes, c'est-à-dire comment on porte en nous les réalités matérielles et économiques dans nos relations interpersonnelles. En tout cas, voilà, c'est une série que je vous conseille. Et je vais passer donc la parole à Anne et vous faire écouter le titre Barracuda Heart, donc de la série The Boys.
Voilà une musique qui donne une idée de l'ambiance survoltée de la série The Boys, qui a beaucoup de musique rock, d'Iggy Pop à The Clash. La série est adaptée d'un comic book et signée Garth Ennis. Elle met en scène une équipe de 7 super-héros. Mais attention, on est loin des super-héros bienveillants d'habitude. The Boys met radicalement en question leur image. Ils sont d'autant plus redoutables qu'ils sont quasi invincibles. Et ils se sentent tellement supérieurs qu'ils ont perdu tout respect pour la vie humaine. En plus, ce sont clairement des produits marketing sous l'égide de Voight, une multinationale qui cherche le profit par tous les moyens. Elle les missionne sur des opérations de com et des missions de sauvetage lourdement tarifées. Cette puissante industrie qui les exploite a même des intérêts dans l'armement et elle n'hésite pas à corrompre les élus et manipuler l'opinion publique. Elle est gangrenée par des scandales. Elle s'en sort grâce à la réécriture de la vérité officielle, sans aucun scrupule. C'est une vision acide d'Hollywood qui vend du rêve, mais en coulisses ne jure que par l'argent et le pouvoir, et on peut même y voir une attaque en règle contre l'Amérique ultra-capitaliste de Trump. Et en parallèle, il y a une partie de la population qui n'est pas dupe. Ce sont les opposants, les boys, une petite bande d'humains ordinaires qui ont en commun d'avoir perdu un être cher, une victime collatérale des super-pouvoirs des sectes. Cette équipe tente de débusquer leurs méfaits et de révéler au public la super arnaque. Elle est menée par Billy le Butcher, un mercenaire omnibulé par la vengeance. Et des deux côtés, les personnages sont fascinants et charismatiques. Le coup de maître de The Boys, c'est d'avoir créé des personnages qui nous rappellent fortement les héros célèbres. Homelander est un pseudo-Superman et son équipe est composée de pseudo-Wonder Woman, The Flash, Aquaman. Et tout ça pour mieux parodier les héros de DC Comics et de Marvel et en exploser les codes. C'est une série engagée et dénonciatrice. Les personnages les plus redoutables, le protecteur Homelander et son pendant féminin qui arrive dans la deuxième saison Stormfront, sont autant attractifs que terrifiants. Et ils révèlent vite leurs pensées xénophobes. Sous ses apparences de jeune femme moderne et militante, Stormfront est un visage acceptable du fascisme, dont l'ancien mari avait expérimenté son sérum de super-pouvoir sur les cobayes du camp de concentration de Dachau. Et la série montre ainsi la banalisation grandissante des idéologies d'extrême droite. D'ailleurs, l'avant-dernier épisode de la deuxième saison est stupéfiant d'actualité. On y suit Tommy, un jeune homme rivé aux chaînes d'infos en continu, qui ingurgite les messages anxiogènes et haineux que Stormfront martèle devant les foules. Ce sont des incitations au passage à l'acte, au nom de l'autodéfense. Et Tommy, complètement parano, finira par abattre son épicier d'origine indienne. Ainsi, la violence trash est loin d'être gratuite, mais elle sert à bousculer les consciences. Et tout y passe. La drogue, les anabolisants, les faux-semblants de la religion évangélique. Et tout est dynamité, par une mise en scène trépidante et une crudité surprenante et galvanisante. C'est un mélange très réussi d'action explosive, d'humour noir et de satire politique qui s'épanouit vraiment dans le gore et le second degré joyeusement insolent. On y avait déjà eu au cinéma des variations corrosives, trash ou punk des super-héros avec Deadpool ou Suicide Squad. Mais en série, c'est encore plus jubilatoire. Les épisodes défilent à un rythme infernal. La saison 3 vient d'arriver et elle est toujours aussi percutante et audacieuse avec un nouveau au casting, Soldier Boy, jumeau de Captain America. The Boys en appelle à notre lucidité. Ne pas oublier que cette série est financée par un grand studio, Sony. Elle obéit donc aux lois qu'elle prétend dénoncer. Ouvrons les yeux sur la société du spectacle générée par le système des studios, mais profitons quand même de ce sacré divertissement. Et place maintenant à la fantaisie avec La Roue du Temps, présentée par Rémi, juste après cet extrait de la bande originale composée par Lorne Belfis.
Donc je vais vous présenter La Roue du Temps, disponible sur Prime Video. Alors The Wheel of Time, ou en français La Roue du Temps, est l'adaptation de l'œuvre d'heroic fantasy de l'auteur américain Robert Jordan. Les différents tomes de cette saga sont d'ailleurs disponibles à la bibliothèque Morichon, dont le premier tome est intitulé L'Œil du Monde. La série est actuellement en production pour sa seconde saison. Dans un monde où la magie existe, mais ne peut être utilisée que par les femmes, Moiraine, membre d'une organisation féministe influente, mais mystérieuse, embarque avec 5 jeunes hommes et femmes dans un voyage épique pour sauver l'humanité ou la détruire. Dès les premières secondes de la série, nous sommes prévenus. Le monde est brisé. Pour en restaurer l'équilibre, une communauté de magiciennes puissantes, nommée Aes Sedai, doit retrouver le dragon réincarné. Cet élu, prophétisé depuis des décennies, se trouve parmi 4 jeunes téméraires. Le têtu et combatif Rand, la guérisseuse Egwen, l'humoristique Matt ou le forgeron Perrin. Problème, le ténébreux tente également de mettre la main sur ses sorciers pour les pousser à détruire la roue du temps. Le scénario, similaire à une large majorité des œuvres de fantasy, possède pourtant de nombreuses singularités. Dans ce monde imaginaire, la magie existe, mais seules les femmes peuvent l'utiliser. À moins d'incarner le sauveur de l'humanité, les hommes, eux, sont dépossédés de tout pouvoir par peur qu'ils ne l'utilisent à mauvais escient. Garantes de l'ordre du monde, ces femmes s'assurent également du bon fonctionnement de la roue du temps. Ce principe, qui régit l'univers de Robert Jordan, est un mélange de réincarnation et de destin. En effet, chaque être vivant possède de multiples vies, à de multiples époques, déjà toutes tracées. Cette première saison, centrée sur les 3 premiers volets littéraires, opère des choix narratifs différents. De son inspiration, puisque si dans les livres l'identité de l'élu est assez rapidement dévoilée, l'adaptation visuelle par la série choisit de conserver le suspense sur plusieurs épisodes. Ce point de vue ajoute à l'immersion et permet au spectateur de prendre le temps de connaître chaque personnage jusque dans sa psychologie intime. Et cette série, c'est donc un savant équilibre entre séries médiévales, fantastiques, chevauchées épiques dans de grandes contrées et batailles sanglantes. Et donc je vais passer la parole donc à Yann, qui, oui, on va vous présenter The Sex Education, I'm Coming Clean d'Ezra Furman. I've got secrets I don't know.
Sex Education. C'est une série créée par Laurie Noone depuis le 11 janvier 2019 qui est sur Netflix. Actuellement, on en est à 3 saisons. La prochaine saison est déjà prévue. C'est une série anglaise tournée en Angleterre et au Pays de Galles essentiellement. Concernant l'intrigue, rien de très nouveau. Otis Milburn entre au lycée avec son pote Eric. Bien sûr, il rêve d'être populaire. Par concours de circonstances, Otis va aider la terreur du lycée qui a des problèmes d'éjaculation, avec l'aide de la rebelle du lycée, Maeve Wiley. Il y arrive grâce aux connaissances que lui a transmises sa mère, la brillante sex-thérapeute Jean Milburn. Bon, apparemment, rien de très neuf. Et pourtant, cette série est un tsunami dans la série qui parle de sexe aux ados et jeunes adultes. Pourquoi ? Parce qu'on ne va pas vous embêter avec « Non, mais rien ne vaut l'amour avant de vouloir le faire. » Non, ça parle de cul. Et vraiment. Avec tous les tabous, par exemple, comment se servir d'une poire à lavement avant de pratiquer la sodomie, les questions de la fellation, puis du rapport au corps que peut avoir la femme ou l'homme dans les ébats. Et au fur et à mesure, les personnages eux-mêmes vont aller vers justement le sentiment amoureux, mais le sentiment amoureux avec du poil autour. Ce qui fait que on ne s'ennuie pas. Et pour quelqu'un comme moi, trentenaire passé, ça fait du bien de se dire que les jeunes ont la chance d'avoir des séries qui sont autrement mieux foutues que les premiers baisers et autres bêtises, même américaines, qu'on pouvait avoir dans les années 90. La vision qui donne du sexe et casse les clichés qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire la bimbo très bébête qui couche un peu avec tout le monde parce qu'on est gentil et parce qu'il est mignon, va vivre un grand trauma qui va parcourir quasiment une saison parce qu'un homme s'est masturbé contre sa jambe dans le bus. C'est pas du trash pour du trash, mais le trash, l'explicite, comme quand le rebelle, la terreur du lycée qui a des problèmes d'éjaculation dans les premiers épisodes, montre son sexe devant tout le lycée et on s'aperçoit que c'est monsieur bien monté, monsieur étalon. On va découvrir que finalement, ce garçon qui est populaire, qui est terrifiant, et qui est bien monté, donc qui, dans les codes un peu lycéens, a beaucoup de choses pour réussir, a des fêlures extrêmement graves, à commencer par le père qui est le proviseur du lycée. Mais des fêlures plus profondes, des sensibilités autres. Eric, le copain d'Otis, est gay. Bon, à notre époque, pas trop choquant. Il vient d'une famille nigérienne pratiquante. Et donc, quand il va à un mariage dans le pays, sa perception des choses va changer. Donc Sex Education est vraiment une super série à mettre entre toutes les mains et à s'en régaler, servie par une réflexion et un humour tout à fait britannique. Et maintenant, on va écouter un extrait d'Obi-Wan et écouter Aurore qui va nous en parler avec délice.
Oui, il est sûr que les fans de Star Wars ne m'auront pas attendu pour regarder cette série. Mini-série d'ailleurs de 6 épisodes qui se situe entre les films 3 et 4 de la saga. Donc exactement 10 ans après La Revanche des Sith et 9 ans après Un Nouvel Espoir. Alors sa réalisatrice, Deborah Chow, n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'après avoir été primée dans plusieurs festivals de films internationaux, elle a déjà travaillé pour Disney et Star Wars, en réalisant plusieurs épisodes de The Mandalorian. Dans cette mini-série dédiée à Obi-Wan, on retrouve deux personnages très importants, des personnages en devenir, qui sont les jumeaux Luke et Leia, qui ont donc 10 ans. Luke vit sur Tatooine avec son oncle et sa tante, et Leia devient la princesse aussi vive que jolie qu'on connaîtra plus tard. Obi-Wan, en revanche, incarné de nouveau par Ewan McGregor, n'est plus le Jedi reluisant qu'il a été. Son échec avec Anakin et le meurtre de tous les Jedi l'ont rendu prudent. Je dirais même aigri. Il n'est pas encore redevenu l'homme sage que joue Alec Guinness dans l'épisode 4. À l'heure où les derniers Jedi sont traqués comme des animaux dans toute la galaxie, une affaire non sans lien avec son passé et d'une importance capitale l'oblige à sortir de son trou malgré lui. Il va alors se mettre en danger de bien des façons. C'est une série qui a dévoré sans modération pour les fans du genre, à découvrir avec délectation pour ceux qui ont apprécié The Mandalorian. On y retrouve tous les ingrédients made in Star Wars, les personnages que l'on connaît sous une forme ou sous une autre, avec de nouveaux qui font leur apparition, bien sûr, pour ajouter le piment qui relève le tout. Une recette qui continue de fonctionner. Et d'ailleurs, Ewan McGregor ne fait pas que jouer le personnage éponyme de cette série, il participe aussi en tant que coproducteur, et ça en dit long aussi sur le jeu qu'il va mettre, son jeu d'acteur qu'il va mettre sous nos yeux, puisqu'il est, il est à son summum, je dirais. Voilà, à regarder donc sans modération, qu'on soit fan ou qu'on ne soit pas fan, puisqu'on peut aussi redécouvrir l'univers grâce à cette série.
Merci beaucoup Aurore et merci à tous nos chroniqueurs Aurore, Nathalie, Amy, Yann et Antoine. Aujourd'hui, nous vous avons parlé donc de Succession, de The Douche, de Kingdom, Oz, La Défense Lincoln, Normal People, The Boys, La Roue du Temps, Sex Education et Obi-Wan. Nous espérons que nous vous avoir donné de bonnes idées pour regarder des séries, que vous allez vous régaler comme nous, on s'est régalé. N'hésitez pas à commenter, nous dire si ces séries vous ont plu, si cette émission vous a plu et si vous souhaitez d'autres spéciales séries sur notre site internet par Messenger ou en commentaire sur notre page Facebook ou lors d'une visite dans nos bibliothèques avant le 12 juillet ou à la rentrée après la réouverture. Puisque nous vous le rappelons, les bibliothèques vont fermer cet été afin de préparer l'installation de la RFID, l'aménagement de bornes en libre service pour plus de modernité et surtout pour que vous puissiez être plus autonome. Nous en profiterons pour rénover les espaces d'accueil des bibliothèques. Vous y trouverez ainsi un accueil encore plus convivial et chaleureux. Et en attendant, nous vous souhaitons un très bel été plein de séries, de films, de musique et de lectures.